Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Tiphaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en ombre par Audrey Guélil. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Cette semaine, une délégation érythréenne s'est rendue dans la capitale éthiopienne, un événement historique pour les deux voisins qui, malgré un accord de paix signé en 2000, ne parvenaient pas à régler leurs différends. Dans le contexte actuel, la rencontre du chef de la diplomatie érythréenne foulant le tapis rouge de l'aéroport d'Addis Abeba aux côtés du Premier ministre éthiopien marque peut-être une étape décisive dans le rapprochement entre les frères ennemis. Alors, quels sont les acteurs, les moteurs politiques, économiques de ce rapprochement? Le temps de la paix est-il enfin venu pour l'Éthiopie et l'Érythrée? Et d'ailleurs, quel en sera le prix? Quels pourraient en être aussi les bénéfices? Quelle recomposition d'alliances dans la région? Un certain nombre de questions sur lesquelles on va se pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité deux personnes. D'abord, Éloi Fiquet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, anthropologue, maître de conférences à l'EHESS. À vos côtés, Alain Gascon, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeur à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Avant d'ouvrir cette table ronde, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres, la journaliste qu'on reçoit ce matin, nous revient du Nicaragua. Bonjour, Karen Lajon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste pour le journal du dimanche notamment, le Nicaragua, le pays le plus pauvre de la région, qui s'enfonce toujours plus dans une grave crise politique. Depuis le début du mois d'avril, des mobilisations contre le pouvoir en place s'enchaînent, la répression contre les manifestants est de plus en plus brutale. On compte un peu plus de 200 morts selon les bilans, sans compter les 1500 blessés. L'actuel chef de l'État, Daniel Ortega, a opposé une réponse extrêmement brutale à l'encontre de ses opposants. L'ancien héros de la révolution sandiniste qui avait mis fin à la dictature de Somoza en 79, qui est à la tête du pays depuis 11 ans, élu en 2006, réélu en 2011, puis en 2016, après, rappelons-le, un passage au pouvoir dans les années 80. Vous êtes rendu dans la capitale Managua, mais vous avez également eu la possibilité de vous rendre à Masaya, qui est une ville d'à peu près 10 000 habitants, qui est devenu l'épicentre des protestations, qui aujourd'hui est totalement bouclée. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, hein, il est très difficile d'accéder à une bonne partie du pays. Les routes sont bloquées, il y a des barrages. Alors ceux des manifestants, ceux de la police, ceux des groupes paramilitaires, c'est assez difficile de se déplacer. Comment vous avez fait pour vous rendre sur place, pour organiser vos déplacements?
Alors, dans Managua, bon, ça reste quand même relativement simple. Hein. Masaya était un petit peu plus compliqué. J'ai bénéficié de l'organisation d'un convoi qui était...
Convoi humanitaire ?
Oui, un convoi humanitaire organisé donc par une association des droits de l'homme du Nicaragua et également par le héros de la ville de Masaya, qui est le père Edwin Roman, qui est à la tête de l'église San Miguel à Masaya et qui est vraiment le symbole héroïque de la ville de Masaya. Mmh. Donc la ville étant complètement fermée donc depuis au moins le 30 mai, ça a dû commencer de toute façon dès le 18 avril, mais au moins le 30 mai, j'ai eu de la chance. Je suis arrivée, ouais. j'ai atterri et trois heures après, j'étais à Masaya, j'ai eu pas mal de chance.
Vous nous rappelez ce qui a mis le feu aux poudres? C'est début avril que les choses ont
18
commencé.
18 avril, oui, le président Daniel Ortega décide de réformer la sécurité sociale, les retraites, pardon, et ça ne plaît pas, bien évidemment. Et il y a eu une réaction immédiate de la part des gens qui étaient concernés, mais également des étudiants qui ont embrayé véritablement le 30 mai, qui était le jour de la fête des mères. Et là, il y a eu une énorme manifestation donc à Managua, mais également dans tout le reste du pays. Et la réponse des forces de l'ordre d'Ortega, elle a été violente immédiatement, puisqu'elle n'est pas passée, comme chez nous, par des sommations, des gaz lacrymogènes ou des choses comme ça. Pas du tout. Les gens ont été tués tout de suite, d'emblée.
Ouais, et pour donner un peu une idée effectivement de cette violence, vous avez notamment rencontré l'une des mères qui a perdu son fils. Elle vous reçoit dans sa modeste maison dans un quartier de l'est de la capitale. Elle vous explique les conditions de la mort de son fils. Il a reçu une balle dans l'œil qui est ensuite ressortie à l'arrière du crâne. C'est ce que stipule le bilan du médecin légiste. Que vous dites-elle de son fils et qu'est-ce que vous comprenez au fond du profil de ces jeunes manifestants?
Alors, en fait, j'en ai vu deux, d'ailleurs. La veille, j'avais vu une autre maman qui, elle, dont le fils était mort complètement par accident. Il n'y avait aucun militantisme, aucun activisme. Ce qui n'était pas le cas de cette maman, dont, ce jour-là, toute la famille était allée de manière dispersée à la manifestation. Donc, ils étaient tous impliqués politiquement, de manière pacifique, hein, parce que ça, les manifestants le revendiquent. Tout ça est un mouvement pacifique. Et ce qui était particulier avec cette dame, c'est que son mari, bien qu'elle soit divorcée, son ex-mari était policier, et policier. Donc il connaissait, un insider au système, bien évidemment, il connaît comment ça se passe et tout ça. Donc la maman, elle a raconté avec beaucoup d'amour, évidemment, elle a parlé de son fils en disant que c'était a priori quelqu'un de très bien, qui était impliqué dans des œuvres caritatives et tout ça. Il n'avait pas du tout le profil d'une espèce de délinquant, je ne sais quoi. De toute façon, il avait une trentaine d'années. Et c'est une famille très soudée, avec la présence de Jésus partout dans la maison, parce que le Nicaragua est un pays extrêmement catholique, extrêmement croyant. Et en fait, la religion joue un très grand rôle dans cette histoire. J'ai pas eu le temps de creuser l'affaire, mais c'est très très important.
L'épiscopat joue un rôle là de oui. médiation, en tout cas essaye. Alors il y a évidemment la police, parce que c'est l'un des acteurs de la répression, mais c'est pas le seul, parce que en face des manifestants, il y a aussi des groupes paramilitaires. Alors est-ce qu'on peut essayer de comprendre qui sont ces groupes, qui les composent et quel lien est-ce qu'ils entretiennent avec le pouvoir de Daniel Ortega?
Alors tous vous diront que les paramilitaires, ce sont des criminels, hein, sont pas ils ont pas de formation militaire particulière, et alors ils sont habillés en civil, ils sont cagoulés et ils sortent en général à la tombée de la nuit, vers 5 heures, puisque la ville de Managua se vide, et ils patrouillent les rues. Et leur spécificité, c'est de tirer immédiatement sur qui que ce soit qui se promène dans la rue après 5 heures de l'après-midi. Ils font aussi des descentes dans les maisons, hein, quand ils ont des gens pour X raisons qu'ils veulent arrêter, ils se gênent pas, quoi. Enfin, ils ont tout pouvoir que leur donne Ortega pour faire absolument ce qu'ils veulent et se livrer à des exactions que la police ne fait pas, elle ne va pas chez les gens comme ça, quoi.
Mais c'est vraiment
le rôle,
quoi,
des paramilitaires. Ouais.
Vous avez eu l'occasion de rencontrer Sergio Ramírez, qui est lauréat 2017 du prix Cervantes, qui est quand même la plus haute distinction dans le monde littéraire hispanophone, et qui est par ailleurs ancien vice-président de Daniel Ortega. Donc il a eu l'occasion de le côtoyer, même si depuis, il a bien sûr pris ses distances. Et lui, ce qu'il vous dit, c'est qu'il a l'impression que la situation au Nicaragua aujourd'hui, elle ressemble un peu à ce qu'on a vu durant les printemps arabes, avec un incident, vous dit-il, qui provoque une explosion majeure. Vous avez eu aussi, vous, l'impression qu'il y avait quelque chose qui relevait de ce qu'on a vu dans les printemps arabes?
En partie. C'est ce que m'a dit Sergio Ramírez, c'est exact, mais c'est pas forcément le discours des étudiants qui, eux, veulent absolument pas être récupérés d'une manière, de quelque manière que ce soit. Ils tiennent vraiment à une espèce de on a décidé, nous, c'est un mouvement spontané, on a fait comme au moment du printemps arabe, c'est-à-dire qu'on s'est mobilisé de manière par les réseaux sociaux, mais il y a une volonté d'avoir créé un mouvement qui leur appartient sans pour autant faire une référence à ce qui s'est passé sur la scène internationale. Bon, Sergio Ramírez, c'est une sommité politique, littéraire. Il n'a pas tort quand il dit que tout est parti d'un petit incident. Après, la comparaison, elle est assez facile, effectivement. Il n'y a pas eu d'immolation, comme en Tunisie, c'était le début du printemps arabe. Mais
c'est la réforme des retraites, Camille.
Voilà, c'est la réforme des retraites. Et surtout, c'est quand même la grosse manifestation de la fête des mères, où là, là il y a des morts.
Réforme des retraites qui, entre parenthèses, avait été demandée par le FMI. Enfin bon, parenthèse fermée.
Mais le FMI était très content de la situation économique. Il parle de miracle économique du Nicaragua.
Pour certains.
Oui.
Révolution ou guerre civile? Parce que est-ce qu'on est là en face d'une situation où, d'une certaine manière, on a tout un peuple qui se lève contre le pouvoir en place? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Et on est là peut-être dans ce qui ressemble plus à une guerre civile? Parce que, je rappelle, Daniel Ortega, il est au pouvoir depuis 2006. Il a été réélu en 2011, en 2016, pour un troisième mandat. 72% des voix à l'époque, j'ai regardé. Donc c'est quand même assez bien réélu. Alors, bien sûr, vous me direz que les élections étaient peut-être pas parfaitement démocratiques, qu'il n'y avait pas beaucoup d'opposants, que par ailleurs il y a eu des fraudes, mais quand même, c'est un chiffre important. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une frange de la population Nicaragua qui soutient encore Daniel Ortega?
35%. Vous avez 35% de la population qui soutient Ortega. Après, ce sont des anciens sandinistes, hein, bien sûr. Mais alors, révolution, moi j'ai trouvé intéressant que je parle des jeunes, parce qu'après tout, c'est eux qui participent à ce mouvement, n'utilisent pas tellement ce terme-là. Guerre civile, je n'espère pas pour eux, je pense que c'est trop tôt. On en est encore à une espèce de mouvement insurrectionnel. Et en fait, ceux qui connaissent très bien Ortega de l'intérieur, et notamment Gioconda Belli, qui est aussi l'autre figure littéraire du pays, et Ramirez, vous expliquent que ça va dépendre un peu de ce que va faire Ortega et à quel moment... Ceux qui le soutiennent vont se sentir trahis ou pas trahis de ce qu'il va faire, en fait. Donc, et l'autre difficulté, c'est ces paramilitaires qui sont cagoulés. À un moment donné, le peuple va vouloir savoir qui a tué qui, en fait. Donc, c'est peut-être le moment charnière où, effectivement, le pays peut tomber dans la guerre civile. Mais moi, pour l'instant, je trouve que ça reste... je vois plutôt le mouvement stagné. Parce que j'ai trouvé les étudiants très fatigués. Il n'y a pas de conscience politique véritable. Ils ne se revendiquent d'aucun isme. Ils ne sont pas dans le marxisme, ils ne sont pas dans le socialisme. Ils regardent avec beaucoup de... Ils lèvent les yeux au ciel quand on vous parle de Chavez. Ils disent qu'on est très romantique en parlant de Chavez, de Fidel Castro et tout ça. Ils s'en moquent complètement. Ils ne sont pas du tout là-dedans. Donc je trouve qu'ils ne sont pas dans cette notion de révolution. Et guerre civile, c'est trop tôt.
Il y a aussi un point qui risque d'être décisif. On faisait tout à l'heure la comparaison avec les révolutions arabes. C'est la question de l'armée. Est-ce qu'on peut imaginer à un moment que l'armée prenne fait et cause pour les contestataires? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible? Il y a certaines voix qui s'élèvent pour une intervention de l'armée et en particulier contre les groupes paramilitaires. Par exemple, l'ancien ambassadeur aux États-Unis l'a demandé cette semaine. Ouais. Vous y croyez?
Elle est divisée, l'armée. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle est absente. On la voit pas. On la voit pas du tout. Moi, je l'ai pas vue.
Vous avez pas vu du soldat?
Ah non, j'ai pas vu d'armée. J'ai couvert le printemps arabe et notamment la chute de Moubarak où l'armée était partout. Et l'armée était du côté du peuple. Là, j'ai pas du tout, je n'ai rien vu de tout ça. Donc, après une petite enquête, en fait, l'armée, ils sont 13 000 soldats et 75 millions en termes de budget. Elle est très liée à Ortega. Elle penche pour le peuple, mais elle a des intérêts économiques. Donc la question, c'est est-ce que dans cette histoire, ils vont perdre leurs intérêts économiques ou pas? Et à ce moment-là, évidemment, ils basculeront d'un côté ou de l'autre. Et a priori, ils sont aussi... l'armée est assez divisée également.
Vous avez rencontré notamment un jeune étudiant, Jonathan Lopez, qui a fait partie d'une délégation qui a tenté, par l'intermédiaire justement de l'épiscopat dont on parlait tout à l'heure, d'engager un dialogue avec Daniel Ortega. Il vous raconte comment, lors de sa rencontre, il a envie de laisser exploser sa colère, mais qu'il doit respecter le protocole. Et ce qu'il vous dit, c'est qu'il voit un président sans cesse au téléphone, hochant la tête en fonction de ce que lui dit son interlocuteur. Et en l'occurrence, ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit plutôt d'une interlocutrice et sa femme, Rosario Murillo, qui a été par ailleurs nommée vice-présidente et qui se voit déjà lui succéder. Vous pouvez nous parler un peu de cette femme qui est, je crois, assez unanimement détestée au Nicaragua?
Elle est honnie même, elle est surnommée The Witch, la sorcière. Elle est détestée, les gens pensent qu'elle est folle déjà. Elle a un rapport à la religion complètement mystique, illuminée, elle voit le diable partout. Enfin, elle est clairement... J'imagine que chez nous, elle serait placée dans un institut psychiatrique et elle a quelque chose qui va pas. Mais surtout sur un plan, elle se voyait déjà élue. Hein. Elle est dans une espèce de dynastie fantasmée. Mais surtout, elle a vidé de son sens le parti. Donc elle a mis de côté tous les classiques. Et ce qui a été très compliqué pour Ortega justement ces dernières semaines, parce qu'il a fallu qu'il rappelle ses camarades qui avaient été complètement écartés du pouvoir par Rosario, et ce qui fait que les gens pensent que le vrai pouvoir, c'est elle qui le détient. Et donc, elle est c'est presque l'antéchrist, j'ai envie de dire, dans ce pays.
Si on fait le bilan, Karine Lajon, des 40 dernières années au Nicaragua, on est passé d'une dictature, celle de Somoza, à une autre dictature. Et finalement, celui qui fait tomber la première a bâti la seconde. Vous avez parlé tout à l'heure de Joconda Belli, qui est une poétesse, écrivaine, romancière, extrêmement connue et reconnue au Nicaragua. Elle faisait partie justement des révolutionnaires sandinistes. Elle a même croisé Ortega, même si elle dit qu'elle ne l'a pas beaucoup fréquenté.
Oui.
En tout cas, elle a vécu la chute de Somoza. La légende raconte même qu'elle avait fait l'amour avec son compagnon de l'époque sous la table de la salle de conférence du bunker qui avait abrité le dictateur déchu. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, comment est-ce
elle
qu'elle...
Elle le raconte.
C'est ce qu'elle raconte. Comment est-ce qu'elle voit cette nouvelle révolution? Est-ce qu'elle a l'espoir qu'elle aboutisse à autre chose qu'une nouvelle dictature?
Moi, j'ai trouvé que elle et Sergio Ramirez étaient très gênés aux entournures. Ils sont pleins d'espoir, bien évidemment. Elle, beaucoup plus, parce qu'elle est, elle est dans le lyrisme. Elle a une manière de s'exprimer très, très imagée, très poète. Mais j'ai trouvé beaucoup de gêne, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont vécu, ils ont été les acteurs d'une révolution qui a conduit, qui a fait tomber une dictature pour conduire à une autre dictature. Donc, il y a une espèce de, ils sont à la fois estomaqués, gênés et pleins d'espoir. C'est un mélange des trois. Mais moi, j'ai trouvé que les jeunes, par exemple, ne se référaient absolument pas à eux. Ces gens-là ne viennent pas dans la psyché collective des jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui au Nicaragua. Ça parle à la vieille, enfin aux vieux, j'ai envie de dire, ça parle aux anciens, mais la jeunesse ne, j'ai pas trouvé que ça leur parlait, quoi. Le seul homme politique qui m'a été cité, c'est un des présidents qui a eu une présidence normale, achevée. Il s'est retiré quand il n'a pas été élu. Hein.
Enrique Bolaños Gayer.
Oui, que j'ai rencontré assez longuement, qui est un vieux monsieur très digne et je pense très correct d'ailleurs. Et lui, c'est un monsieur qu'on m'a cité. Mais tous les anciens de la révolution, j'ai pas trouvé. Donc, Ramirez, il est très gêné, évidemment. Il vous dit que il peut pas dire qu'il a pas connu Ortega. Ça, c'est compliqué.
Il a été son vice-président.
Exactement. Donc, voilà. Mais celle qui a eu un jugement de valeur assez terrible, c'est Joconda Belli. Elle en fait un portrait peu flatteur puisqu'elle dit que elle a toujours trouvé que c'était quelqu'un de pas très intelligent, sans scrupules. Mais quand je lui ai posé la question, mais vous avez bien connu Daniel Ortega, elle m'a répondu d'une manière très agacée. C'est en fait, ce sont des anciennes fréquentations qui maintenant sont un peu pénibles à assumer.
Ouais. Merci beaucoup, Karine Lajon, d'être passée dans nos studios. Je rappelle que vous êtes journaliste et qu'on peut relire vos différents articles dans le Journal du Dimanche. Merci infiniment d'être passée dans nos studios.
Cuando la estaba queriendo, cuando la estaba sintiendo, todita mía la vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa.
On tourne cette page pour en ouvrir une autre. On se dirige vers la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée, les frères ennemis en route pour la paix. C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et oui, cette semaine, l'Érythrée et l'Éthiopie ont marqué une étape décisive dans leur rapprochement. En effet, 20 ans après l'éclatement du conflit qui a fait entre 80 000 et 100 000 morts selon les estimations, et malgré l'accord d'Alger de 2000 qui visait à ramener la paix, les deux voisins cohabitaient dans une situation de conflit latent, mais les voilà désormais disposés à y mettre réellement un terme.
C'est un moment décisif pour l'Éthiopie. Nous enverrons une délégation à Addis Abeba pour évaluer directement et en profondeur les développements actuels, et aussi pour élaborer un plan d'action pour l'avenir.
«
Voilà, cette voix qu'on entendait, c'était celle d'Assayas Afewerki, et puis celle qu'on entend là tout de suite derrière moi, c'est Abiy Ahmed. Que faut-il attendre de l'ouverture de ce processus de discussion? Peut-on croire à la paix dans cette corne de l'Afrique? Quelles en seront les conditions? Les recompositions d'alliances qui sous-tendent aussi ce rapprochement? Pour évoquer toutes ces questions, Alain Gascon et Éloi Fiquet sont nos invités. Marc Semo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi, on commence avec vous. Le premier geste significatif du Premier ministre éthiopien, ça a été de rétrocéder la ville de Badme, qui est à cheval sur les deux pays. C'est une ville qui est évidemment symbolique, c'est de là où est parti le conflit en 98. Les forces éthiopiennes avaient beaucoup perdu d'hommes, ce qui avait peut-être participé à faire de cette ville un véritable symbole de la fierté nationale. Les accords de paix de 2000, signés sous l'égide des Nations Unies, prévoyaient l'attribution de Badme à l'Érythrée, mais les forces éthiopiennes refusaient de quitter la ville. C'est un geste politique évidemment considérable que cette rétrocession, et on voit enfin émerger la possibilité peut-être d'une paix. On dit souvent d'événements qui sont historiques, celui-là peut-être en être un.
Absolument, Marc. Mais surtout il y a aussi l'émergence d'un vrai nouveau leader en Éthiopie, avec Abiy Ahmed.
On va en parler.
Alors voilà, l'enjeu est crucial, parce que c'est le second pays le plus peuplé d'Afrique, c'est une puissance potentielle émergente, c'est un ex-empire chrétien qui n'a été vraiment colonisé, sinon marginalement par les Italiens. Il y a eu une dictature socialiste féroce avec Mengistu, et puis maintenant ce parti au pouvoir, le Front Révolutionnaire Démocratique des Peuples Éthiopiens, qui est au pouvoir depuis 27 ans, donc usé, et voilà. Et il y a ce leader qui est en train de tout changer, par cette ouverture avec l'Érythrée, par cette ouverture aussi vis-à-vis de l'Égypte, hein, où il propose, autre gros sujet de contentieux, le partage des eaux du Nil. Alors toute la question maintenant, avec Abiy Ahmed, hein, père musulman, mère protestante, c'est de savoir si ça va être Gorbatchev ou Deng Xiaoping. Si, en ouvrant à la société civile, si en démocratisant, si en liquidant les contentieux avec les voisins, il va justement mettre vraiment l'Éthiopie au centre du jeu, ou si au contraire, ça va être l'effondrement. Alors, il a des atouts, hein, parce qu'il y a déjà la Chine, qui, dans le coin, tient justement à cette espèce de grande redistribution, elle a besoin de ports, aussi de l'ouverture de l'Éthiopie vers la mer. Il y a surtout l'Arabie Saoudite, qui est le grand allié de l'Érythrée et d'Égypte, et qui maintenant entre à plein dans le jeu, qui soutient ce qu'est en train de faire Abiy Ahmed, et c'est ça qui est en train de totalement changer la donne dans l'Est de l'Afrique.
Alors, on va vous entendre, messieurs, mais je vais donner quand même quelques éléments pour les auditeurs, pour qu'ils puissent un peu avoir le cadre général de la situation. Parce que ce pays, l'Éthiopie, il est plongé dans l'incertitude depuis la mort en 2012 du Premier ministre éthiopien Meles Zenawi, qui était à la tête du pays depuis la chute de la dictature. Et depuis, les crises politiques se sont enchaînées avec régulièrement des mouvements sociaux qui d'ailleurs avaient ce site particulier qu'ils intervenaient. Ils sont parvenus à rassembler Oromos et Amara autour d'une dénonciation commune du pouvoir en place. Quand Meles Zenawi meurt en 2012, il est remplacé par un autre Premier ministre, mais faute de légitimité, il finit par démissionner. Et c'est donc en février dernier qu'il est remplacé par cet homme, Abiy Ahmed, qui est donc le premier Premier ministre Oromos qui accède à la tête d'un pays où la minorité tigrène, à peu près 6% de la population, a toujours tenu un peu les leviers du pouvoir. Alors, est-ce qu'on peut vous dodeliner, Alain Gascon? Alors, je vais vous donner la parole. Vous allez nous expliquer pourquoi vous dodelinez, mais je voudrais qu'on présente un peu ce nouveau Premier ministre, qu'on comprenne quel genre d'homme politique il est, quel est son parcours et dans quelle mesure est-ce qu'il vous semble qu'il est responsable de ce réchauffement qu'on observe aujourd'hui. Alors on va commencer par vous, Alain Gascon.
Oui, alors Abiy Ahmed, effectivement, c'est un Oromo du Balaga, hein, et bon, qui a un père musulman et puis une mère chrétienne. Et donc, effectivement, c'est déjà une nouveauté, parce que Meles Zenawi était originaire du Nord, il était chrétien, disons, éthiopien. Mais il faut, là aussi, si vous voulez, je dodeline, parce qu'effectivement, c'est difficile de dire, même si les Oromos l'affirment, et même s'ils en ont, comment dirais-je, la conviction, et dire que les Oromos sont écartés du pouvoir ou que c'est la première fois que les Oromos approchent ou accèdent au pouvoir.
En tout cas, il n'y a jamais eu d'Oromo chef du gouvernement en Éthiopie.
Oui, mais Haïlé Selassie, de par...
Ou alors, faut remonter très...
Mais voilà, Haïlé Selassie, de par ses parents, et nous sommes dans une société ambilinéaire, il y a quand même un certain Gaddissou qu'on retrouve du côté de son père. Et c'est un nom qui est typiquement Oromo. Hein. Je veux dire, les Oromos sont quand même dans les allées du pouvoir depuis au moins le XVIIe siècle, et même peut-être avant, selon l'historien Mohamed Hassen.
Donc pas totalement disqualifié.
Et voilà.
Éloi Fiquet, sur cette personnalité, et sur... est-ce que vous pensez qu'il est à l'origine de ce réchauffement, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'on voit moins ?
Ah, incontestablement, cette personnalité a impulsé un mouvement de réforme, un enthousiasme communiqué par ses discours qui est vraiment inouï. Il y a quelques semaines, Florian, nous nous rencontrions pour parler d'un discours historique, celui d'Élie Sélassié devant la Société des Nations à Genève, hein, c'était un discours de défaite, d'humiliation. Alors là, on ne sait pas encore si les discours d'Abiy Ahmed auront une portée historique, l'histoire le dira, mais en tout cas, on peut se rendre compte que la réception de ces discours par l'opinion publique éthiopienne, nationale, internationale, à travers la diaspora, est vraiment tout à fait inédite. Et samedi dernier, sur la grande place de Mezkel, la place de la Croix à Addis Abeba, les partisans des réformes d'Abiss réunissant des centaines de milliers de personnes dans une atmosphère de liesse, d'enthousiasme, de réjouissance, tout à fait surprenante et inédite depuis les années que l'on peut, avec Alain Gascon et d'autres, fréquenter ce pays. J'étais moi-même sur la place de Mezkel ce jour. J'en suis parti juste avant l'attentat à la grenade. Mais c'est vrai que c'était étonnant de voir toutes les générations qui étaient réunies là, les classes sociales, avec différents partis politiques, différents slogans, une sorte de liberté d'expression qui se manifestait. Enfin, on avait le sentiment que c'était une victoire des mouvements d'opposition, alors qu'il n'y a pas eu d'élection. Ça a été des tractations internes à la coalition au pouvoir, et néanmoins, le sentiment comme ça d'une libération politique, d'une capacité d'expression.
Oui, parce que il faut dire que c'est pas seulement ce rapprochement. Il y a d'autres choses. Il y a la libération d'opposants. Il y a eu la levée de l'état d'urgence. Il y a l'ouverture au privé du capital de grandes entreprises publiques. Donc on voit au fond un vent de réforme très profond qui est en train de souffler sur l'Éthiopie. Marc Sémo.
Justement, c'est pour ça que je parlais de Gorbatchev, parce que à la base, il n'a pas été élu. C'est quand même les équilibres internes de ce mouvement au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, usé par 27 ans de pouvoir, qui jusqu'ici n'avait pas montré des grands signes d'ouverture, qui fait ce choix. Alors, quelle est la vraie force dont dispose Abiy Ahmed? Parce que, alors, il a le soutien du peuple, comme le montraient ses manifestations, mais en même temps, c'était quand même tout un jeu d'équilibre interne.
Éloi Fiquet, puis Alain Gascon. Éloi Fiquet.
Alors, je crois que sa force tient dans son discours, qui est tout à fait neuf. Si on analyse ses discours, il en fait beaucoup là depuis quelques semaines, et à chaque fois des discours qui, tant du point de vue diplomatique, du point de vue interne, renouvellent totalement le jeu. Et ces mots, c'est Fekir, l'amour en amharique, Ikerta, le pardon, Andinut, l'unité, Mustawat, le sacrifice, Medemer, le dépassement des divisions, Hebronnut, les solidarités. Dans le discours politique d'un homme éthiopien, ce sont des mots tout à fait nouveaux et qui vont directement toucher l'émotion des Éthiopiens. Donc on peut voir cela. Par ailleurs, il faut quand même avoir en perspective que le calendrier électoral éthiopien est important et les prochaines élections seront en 2020. Et il s'agit pour ce Premier ministre de préparer ces élections de façon, là aussi, en renversant un peu le jeu politique. Il a libéré des prisonniers politiques. Il entend donner plus de place aux partis d'opposition dans ce jeu, opposition Oromo, opposition Amara, enfin les différentes oppositions. Donc on va rentrer là dans une période de un an et demi de reconfiguration du jeu politique, peut-être de libéralisation, à voir si ensuite cela sera payant pour la coalition au pouvoir. C'est ce qui avait raté en 2005. Il y avait une tentative d'ouverture qui n'avait pas fonctionné.
Alain Gascon, il y a la dimension politique, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on oublie? Parce si on se demande pourquoi Abiy Ahmed enclenche ce pays, on entend les discours que nous dit Éloi Fiquet, ce discours d'unité, de rassemblement, mais il y a quand même une autre dimension, c'est la dimension économique. L'économie de l'Éthiopie est un peu en baisse. Alors la croissance est encore très bonne, mais ça va pas très bien partout, notamment sur les zones frontalières où ça peine beaucoup. Est-ce qu'il faut pas mettre un peu aussi en avant le facteur économique là dans ce rapprochement?
Avant de parler du facteur économique, ce qui me paraît très important aussi, c'est l'audace de Abiy Ahmed. Parce que il est allé, son premier voyage officiel est allé à Ambo. Et bon, je connais bien Ambo, j'y ai vécu pendant 2 ans, j'y ai fait ma thèse, etc. Donc, si vous voulez, il est allé dans une région qui avait été à la pointe de l'opposition. C'est là où il y avait eu les émeutes les plus importantes, émeutes provoquées par les problèmes d'agrandissement de Addis Abeba, des problèmes de terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé directement à Ambo. Et bon, moi, j'ai naturellement essayé de suivre au maximum sur Internet ce qui s'était passé. Et effectivement, je crois que ça, c'est quelque chose qui a soulevé les populations. D'autant que nous sommes aussi dans un pays où 45% de la population a moins de 18 ans. Et donc, il a joué, effectivement, une nouvelle génération. Et c'est en cela qu'il est audacieux. Et tout à l'heure, avec Éloi, nous évoquions, et moi j'évoquais, l'Éthiopie que j'ai connue au début de la Révolution, avant que la Révolution se fossilise et devienne ce bain de sang que nous avons connu.
En 1974.
Les premiers mois de la Révolution, c'était, bon, Ethiopia Tikdum, l'Éthiopie d'abord, mais Kalumenumdum, c'est-à-dire sans effusion de sang. Et au début, ça a été une révolution sans effusion de sang. Et donc, il y avait, si vous voulez, là aussi, c'était beaucoup d'élèves que j'avais eus, c'était cette jeune génération qui, naturellement, a été flouée par la suite parce qu'on lui a confisqué le pouvoir. Hein? Donc, si vous voulez, là, il y a quelque chose il y a un choix, il y a une audace.
Et sur les facteurs économiques?
Alors, sur les facteurs économiques.
Dans quelle mesure est-ce qu'ils pèsent dans ce rapprochement?
Alors, là, sans doute, hein. Mais, attention, si vous voulez, l'économie éthiopienne a toujours été surveillé de très près par l'État, même au temps de Haïlé Selassie. Hein. L'État a toujours été un acteur économique extrêmement important. Ménélique sous Ménélique aussi. Hein. Je veux dire que c'est une tradition qui n'est pas une tradition qui a été héritée des Chinois. Les Éthiopiens sont toujours extrêmement méfiants vis-à-vis de toute influence extérieure. Et donc, ils acceptent. Mais aussi, une de leurs spécialités, par exemple, c'est de diviser les chantiers. Le chemin de fer, vient d'être réhabilité, reconstruit. Le chantier est divisé entre les Chinois, les Indiens et les Turcs.
Enfin, c'est quand même les Chinois qui ont la très grosse partie. Enfin bon.
Oui, mais la ligne qui part de Awash et qui va aller au Tigray, c'est une ligne construite par les Turcs.
Oui, mais si on regarde les investissements directs étrangers en Éthiopie, la Chine est très largement devant.
Tout à fait d'accord, mais le fameux grand barrage dont vous parliez, il est financé, il est financé essentiellement par une souscription nationale, plus ou moins volontaire, et je dirais, bon, très dirigée. Mais par exemple, quand je suis allé à l'ambassade d'Éthiopie, il y avait des papiers pour souscrire à ce barrage. Et même dans les organes de la diaspora éthiopienne, qui ne sont pas du tout favorables au régime éthiopien actuel, on encourage la souscription à ce barrage. Parce que le barrage, c'est le souci de l'indépendance nationale.
Marc Semo et puis Éloi Fiquet. Marc Semo.
Non, par rapport à ce que vous disiez, effectivement, l'Éthiopie, c'est un vrai État. Mais qui a des siècles derrière lui. Mais alors, justement, il y a en même temps de la part de Abiy Ahmed un jeu extrêmement habile au point de vue diplomatique, parce que donc il a le soutien des Saoudiens, il a le soutien des Chinois, il a aussi
le soutien de
l'Égypte. Ça c'est l'alliance saoudienne, mais il a toujours eu des liens, aussi avec Israël, ils sont anciens. Donc aujourd'hui c'est même un des endroits où il y a ce test de cette espèce de nouvel axe Riyad Tel Aviv avec discret, mais qui est quand même là. Donc on a l'impression que c'est vraiment aujourd'hui le lieu du grand jeu dans tout l'Est de l'Afrique, et même par rapport à la mer Rouge et au Golfe.
Et Éloi Fiquet, c'est absolument le théâtre de ce nouveau grand jeu?
Oui, et l'Éthiopie a toujours conçu sa souveraineté dans le jeu international à travers un multilatéralisme. Ne jamais s'enfermer dans une alliance, mais pouvoir négocier en même temps des alliances avec des partenaires qui, entre eux, peuvent être rivaux. Et c'est de cette façon que l'Éthiopie a notamment pu négocier son indépendance au moment du partage colonial de l'Afrique. Et on voit la façon dont Abiy Ahmed hérite de cette intelligence diplomatique des dirigeants éthiopiens. Il a fait une série de voyages, d'abord à l'échelle régionale, hein, Djibouti, Soudan, Kenya, avec quand même reprise des pourparlers de paix entre les frères ennemis du Sud-Soudan, Kir et Machar, là, qui ça a abouti récemment à Khartoum. On verra combien de temps ça durera. Ensuite, il est allé en Arabie saoudite, où il a négocié à la fois la libération de prisonniers éthiopiens, tout en négociant la reprise d'investissements saoudiens en Éthiopie, et puis l'afflux de devises étrangères. Hein, l'économie éthiopienne est vraiment exsangue en devises étrangères, et c'est ce qui est en jeu dans ses visites diplomatiques. La visite en Égypte au début juin a aussi été tout à fait étourdissante. Il a, aux côtés d'Abdel Fattah Sissi, juré une sorte de partage des eaux du Nil, une sorte de serment de non-agression, et il a répété en langue arabe les mots que Al-Sissi lui faisait répéter en termes. C'est tout à fait inédit de la part d'un dirigeant éthiopien. Ensuite, le prince héritier des Émirats arabes unis est venu en Éthiopie, où il a promis une aide de 3 milliards de dollars. Tout cela dans une négociation au niveau régional des alliances conflictuelles avec le Qatar, allié de la Somalie. Et le lendemain de la rencontre avec les Émirats arabes unis, il est allé en Somalie pour réconcilier la Somalie avec les Émirats. Enfin, c'est vrai qu'on vit une actualité diplomatique régionale tout à fait étourdissante.
J'ai une toute petite question. Je comprends bien l'intérêt de l'Éthiopie d'avoir le soutien de ces pays-là, parce que financièrement, c'est très clair. Quel est l'intérêt pour un pays comme l'Arabie saoudite, par exemple, de se faire l'allié de l'Éthiopie?
C'est le pôle de stabilité régionale. C'est l'Éthiopie avec sa population, avec sa diversité, avec ce caractère de pivot en termes civilisationnels. Hein. L'Éthiopie, c'est ce point d'équilibre entre le monde du christianisme et le monde de l'islam. Je crois que l'Éthiopie a cette place, une place dans la longue durée. L'Éthiopie ne s'inscrit pas juste dans le présent, mais l'Éthiopie s'inscrit dans des relations extrêmement anciennes avec l'Arabie et les pays arabes.
Et la place...
Israël aussi, hein. L'Éthiopie est aussi un pays de culture juive et de partenariat fort à différents niveaux avec Israël. Donc l'Éthiopie est vraiment conçue de la part de ses voisins, mais des puissances internationales, comme un pôle de stabilité. Et puis il faut rappeler que du point de vue de la sécurité africaine, Addis Abeba est le lieu où se trouve l'Union africaine. Donc la diplomatie africaine se pense, se négocie depuis l'Éthiopie en lien avec les dirigeants éthiopiens.
Alain Gascon.
Oui, effectivement, l'importance de l'Union africaine est absolument déterminante. Hein. Je veux dire que c'est ça. À Addis Abeba, il y a plus de 150 ambassades. Hein. Il y a la communauté économique africaine. Il y a des tas d'institutions internationales qui ont ce siège à Addis Abeba. Et donc, Addis espère naturellement prendre l'avantage aussi sur Nairobi, qui est le grand concurrent. Deuxième point aussi, l'armée éthiopienne. Et bon, j'ai dirigé une thèse sur l'armée éthiopienne, et donc c'est un instrument qui a révélé son efficacité. Hein. Il a fallu moins d'une semaine aux Éthiopiens pour aller à Mogadiscio, même si par la suite, naturellement, ils ont eu d'énormes difficultés à tenir le terrain. Mais disons, ils en sont partis. Donc, effectivement, il y a dans cette partie de l'Afrique... Si vous voulez, ça apparaît comme étant un élément stable. J'ajouterais aussi que ces relations avec l'Arabie saoudite sont anciennes. Haïlé Selassie avait d'excellentes relations avec la monarchie de Riyad.
Et entre monarchies, on s'entend bien.
Oui, comment ?
Entre monarchies, on s'entend bien.
Oui, mais attention, parce que les Saoudiens avaient commencé par soutenir le Front de libération d'Érythrée.
Hein. Ah oui,
et donc Haïlé Selassie a réussi à faire que l'Arabie saoudite ne soutienne plus les Érythréens, ce qui était quand même, sur le plan diplomatique, intéressant. Ensuite, l'un des meilleurs amis de Meles Zenawi, hein, c'était Cheikh Alamoudi. Et Cheikh Alamoudi est né au Wollo, mais il est éthio-saoudien. Et il a le le groupe le plus important, le groupe économique le plus important en Éthiopie.
Je voudrais, si vous voulez bien, qu'on se place maintenant du côté de l'Érythrée. Pour comprendre finalement pourquoi est-ce que du côté de l'Érythrée, on accepte cette main tendue de la part de l'Éthiopie. Assayas Afwerki, il est à la tête de l'Érythrée depuis un quart de siècle, depuis 1993. Pourquoi est-ce qu'il accepte? Comment?
91.
Bon, j'avais lu 93.
Et à la tête du mouvement de libération érythréen depuis encore plus.
Bon, depuis plus de 25 ans en tout cas. Pourquoi est-ce qu'il accepte cette main tendue de l'Éthiopie? Quel est son intérêt, Éloi Fiquet?
Alors, décrypter les intérêts et les jeux de pouvoir d'Isaias Afwerki, je serais bien imprudent de donner une réponse. Toujours est-il que depuis 20 ans, depuis la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée, depuis 1998, il y a un jeu international de rivalité, de proxy wars entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui se décline sur différents terrains, notamment la Somalie, avec ces accords d'Alger négociés en 2000, où l'Éthiopie et l'Érythrée consentaient à reconnaître les conclusions de la communauté internationale sur le tracé des frontières, et cette commission sur le tracé des frontières, ces conclusions se sont faites finalement au détriment de l'Éthiopie, alors que l'Éthiopie, qui avait gagné sur le terrain militaire la guerre, pensait que son avantage serait reconnu par la communauté internationale. Donc il y a eu un blocage, et un blocage qui a contribué à l'enfermement sur soi du régime érythréen, un régime maquisard qui s'est enfermé dans une sorte de pensée paranoïaque, environné d'ennemis, ne pensant qu'à l'assujettir, et ça a encourager, oui, l'enfermement sur lui-même d'Isaias Afwerki et de son groupe de pouvoir. Alors ensuite, l'intérêt est sans doute de pouvoir passer à une autre logique. Hein, l'Érythrée est au banc des nations depuis plusieurs années. Là, on voit la crise des réfugiés, des Érythréens fuir en masse le pays et poser un vrai problème aux pays d'Afrique du Nord et d'Europe qui doivent gérer ces réfugiés érythréens. Donc il y a certainement moyen, à travers cette reprise de négociation avec l'Éthiopie et cette ouverture qui est promise, pour l'Érythrée de reprendre place de façon régénérée dans le jeu international et pouvoir espérer une capacité de développement, de réouverture à une nouvelle génération.
Et sur le jeu plus intérieur, Alain Gascon, est-ce qu'on peut formuler l'hypothèse, parce que vous parliez des ennemis, Éloi Fiquet, de l'Érythrée et donc de son président Afwerki, parmi ceux-là il y a bien sûr les anciens rebelles du Front Libération du Peuple des Tigrés qui n'aiment pas beaucoup Abiy Ahmed et dont ils sont aujourd'hui finalement des opposants. Donc d'une certaine manière, accepter la main tendue d'Abiy Ahmed, c'est aussi une manière d'affaiblir précisément ses ennemis de l'Érythrée. Est-ce que ça, c'est une hypothèse qui tient, Alain Gascon?
Écoutez, là aussi, je serais comme Éloi, je serais très... Beaucoup de questions à propos de l'Érythrée et plus à propos d'Isaias, hein, on ne sait pas très très bien. Parce que la situation, si vous, il y a quelques années, je n'ai plus exactement je crois que c'est il y a 4-5 ans, il y a eu, semble-t-il, un putsch qui a échoué. Hein. Et depuis ce temps-là, l'armée érythréenne, qui est issue du Front Populaire de Libération d'Érythrée, et ben, selon ce que j'ai pu lire et selon ce que l'on peut savoir auprès d'amis érythréens, dont je ne dirai pas le nom, pour des questions de sécurité, l'armée est, disons, désarmée. L'armée est privée de matériel militaire moderne. Les soldes sont maigres, comme dans tout le pays, et c'est une garde prétorienne de 10 000 ou 20 000 hommes qui sont des Tigréens, donc d'Éthiopie, qui sont en rupture avec l'ex-Front Populaire de Libération du Tigray, qui ont les hauts salaires, l'armement moderne, qui fréquentent les bars et draguent les filles. Vous voyez ce que je peux vous dire. Hein? Alors effectivement, ça ne crée pas, disons, une atmosphère de concorde à l'intérieur du pays.
Éloi Fiquet, sur cette hypothèse que, d'une certaine manière, ça permet à Isaias Afwerki, le président érythréen, d'affaiblir ses ennemis, ses anciens rebelles du Front de Libération du Peuple des Tigrés, et sur le risque aussi, du coup, peut-être, d'affaiblir précisément ses ennemis. Il y a eu évidemment un attentat. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un enflammement, d'un nouveau cycle de violence qui s'enclencherait par précisément ce processus de rapprochement ? Faut-il le craindre ?
Forcément, il y a des risques de discorde à différents niveaux entre différentes factions de pouvoir. La Corne de l'Afrique, depuis plusieurs années, soit le lieu d'un billard, une partie de billard à plusieurs bandes, dont Isaias Afwerki est l'un des maîtres, c'est incontesté. Ensuite, en tant qu'observateur et étranger, observer cette partie de billard, c'est quand même très difficile. On n'a pas les paramètres, on connaît pas tous les acteurs. Ça se joue dans des cercles extrêmement discrets, avec de temps en temps, comme Alain Gascon l'a signalé, des tentatives de coup d'État, mais sans qu'on sache exactement bien ce qui se joue. Alors, encore là dernièrement, samedi dernier, il y a eu une tentative d'attentat à la grenade contre le premier ministre éthiopien à l'occasion de ce grand rassemblement. Alors, on ne sait pas qui est derrière cette tentative, mais manifestement, il y a des mécontentements qui sont provoqués par le total revirement de bord, les réformes importantes déclarées par Abiy Ahmed. Ça affronte assez directement dans le discours des intérêts d'une oligarchie au pouvoir qui a cumulé des ressources de corruption et autres gains liés au pouvoir. Donc il y a des hostilités qui peuvent être déclenchées. Néanmoins, Abiy Ahmed vient des services de renseignement. Il a autour de lui des hommes qui connaissent extrêmement bien tout ce jeu que les observateurs étrangers ont du mal à voir. Donc il y a eu des nominations et des changements importants dans l'état-major de l'armée, dans les services de renseignement. Et Abiy Ahmed, qui vient de ces milieux-là, c'est un homme du pouvoir.
Oui, il a dirigé l'un des principaux organes de renseignement.
Tout à fait, il connaît très bien le système ministre, de l'intérieur.
Donc, je pense, c'est pas un anti-système.
Pas du tout, il vient du système. Il sait très bien comment ça fonctionne. Et je pense qu'il a de très bonnes informations pour aussi pouvoir avoir une certaine capacité d'anticipation.
Alain Gascon, vous craignez un retour de la violence ?
Je veux dire, c'est pas du tout exclu. Les sociétés éthiopiennes et érythréennes sont des sociétés violentes, sous des apparences qui sont parfois un petit peu assis quand même. Je voudrais dire aussi, à propos d'Isaias Afwerki, on est dans une situation extraordinairement tendue en Érythrée. Il y a seulement deux sociétés. Il y a le Hidrifund et une autre société qui s'occupe des exportations et des importations. Et tout le monde en passe par cette société. Je veux dire, il y a une concentration du pouvoir qui est absolument fantastique. Notamment, moi, j'ai vu récemment, le revenu par tête a augmenté en Érythrée parce que on a exploité des mines d'or par une société canadienne qui a d'ailleurs quelques ennuis en Canada. Et effectivement, on sait très bien que ces mines d'or, c'est le pouvoir, c'est l'entourage du président qui effectivement a ramassé le pactole, si j'ose dire. Mais la situation en Érythrée est une situation qui est totalement ingérable. Ce qui va se passer après, personne ne le sait. C'est pire qu'en Corée, parce que là au moins, on est sûr que le pouvoir se transmet dans les Kim. Là, on ne sait pas où sont les Kim.
Il va falloir suivre donc cette situation de près. Pour finir, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, qui est cette association de dessinateurs du monde entier. Chaque vendredi, on sélectionne des dessins, un dessin en fonction de notre sujet du jour. Aujourd'hui, on a choisi de pas justement rester sur notre sujet du jour, mais d'élargir un petit peu. Il y a évidemment d'autres actualités qui s'imposent. C'est la bulle Cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux.
Assis.
Bonjour Tiffaine.
Bonjour Florian.
Il n'a pas un dessin, mais une série de dessins avec les élections en Turquie.
Oui, et des dessinateurs qui dénoncent tous la répression du pouvoir à l'égard de l'opposition en Turquie. Ainsi, dans le Sydney Morning Herald, Wilcox représente un Erdogan qui énonce sentencieux « le peuple a parlé », tandis que sous son pupitre, des dizaines d'opposants sont enfermés derrière des barreaux, un bâillon sur la bouche. Même regard de Raïma, la dessinatrice vénézuélienne, croque le président turc en sultan, dont l'énorme turban retient captif le peuple tout entier. C'est en effet un mandat au pouvoir renforcé qu'Erdogan vient de remporter, et cela malgré une opposition qui avait réussi à se structurer. Erdogan, nouveau roi soleil pour le dessinateur mexicain Antonio Rodriguez, qui lui fait dire « l'État c'est moi » comme autrefois Louis XIV au parlementaire parisien. Dans le régime hyper-présidentiel voulu par Recep Tayyip, il reste peu de place au parlement nouvellement élu, élu à la majorité absolutiste, nous dit Chapat, qui représente le Reich turc seul dans son monumental palais blanc. Damien Gley, lui, nous propose un Erdogan qui dessine un cœur avec ses mains, mais il est trahi par l'ombre et c'est bien un sécateur qui apparaît, prêt à sectionner les toutes dernières libertés du peuple turc. Cette série de dessins que nous propose Cartooning for Peace en une de son site cherche à envoyer un signal fort, un signal de solidarité à tous les dessinateurs, journalistes, opposants politiques et militants des droits de l'homme qui croupissent aujourd'hui par milliers dans les prisons turques.
Marc Semot, toute petite réaction de la Turquie, vous connaissez bien, vous suivez depuis très très longtemps, que vous inspire cette élection de l'hyper-président turc ?
Pas mal de tristesse, d'autant que l'opposition s'était structurée, beaucoup espéraient un second tour. Finalement, il y a eu malgré tout cette espèce de bloc sunnite, conservateur, pieux, nationaliste qui continue envers et contre tout à voter pour Erdogan parce que les fraudes ont été relativement marginales. Et donc c'est effectivement une élection qui a montré cette espèce de fidélité d'une majorité, quoique très courte, pour Erdogan.
On met tous ces dessins sur le site de France Culture. Absolument. Et à retrouver aussi sur le site de Cartooning for Peace.
Oui, et merci. Sur les réseaux sociaux.
Merci, Tiffaine.
Antin sasta wisish elwa yemeta Ehlo hatella gba sta.
Voilà, c'est avec ce très beau morceau éthiopien qu'on se quitte. On va mettre les références sur la page de Culture Monde. Je vous remercie beaucoup à l'un et à l'autre, Alain Gascon et Loi Fiquet, d'avoir été avec nous ce matin et nous avoir éclairé sur ce rapprochement, ce réchauffement entre l'Éthiopie et l'Érythrée. C'est la dernière de la saison avant de se retrouver l'année prochaine. Un très grand merci à vous, Tiffaine de Rokini. Vous êtes à côté de moi et vous êtes à côté de moi en fait depuis des années de maintenant. On a rarement vu une entente professionnelle aussi bonne entre vous et moi. Vrai. Voilà, disons-le, vous partez pour de nouvelles aventures. On verra tout ça à la rentrée. Mais pour lesquelles, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, cher Tiffaine. Merci pour
merci
tout.
À vous.
Et puis, voilà, je vais me consoler avec les restes de l'équipe. Hein, la formidable Marguerite Caton, que je remercie aussi pour sa plume et son sourire. Samuel Bernard également pour son grand professionnalisme, son enthousiasme, sa bonne humeur. Un grand merci pour notre cher réalisateur aussi, Benjamin Hu, pour sa capacité aussi à déconstruire les sujets avec des formidables modules sonores. Un immense merci également à notre cher stagiaire, Garance Munoz, qui est resté avec nous pendant plusieurs mois, qui nous a beaucoup aidés, hein, disons-le. Merci, cher Garance, et qui, accessoirement, a préparé des concours qu'elle a tous brillamment réussi. Bravo à elle. Moi, je vous retrouve à la rentrée après quelques semaines de repos. Je vous souhaite un très bel été à toutes et tous. Rendez-vous donc à la rentrée. Mais d'abord, bien sûr, Brice Couturier, le tour du monde des idées, faut pas l'oublier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Pour cette dernière de l'année avant l'année prochaine. Vous nous disiez hier, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle en particulier, on n'est plus que jamais en présence de la concurrence entre deux modèles, celui de la Chine et celui de l'Occident. Quels sont les atouts respectifs de ces deux modèles, Brice?
Eh oui, qui peut l'emporter? C'est une discussion relancée récemment aux États-Unis et dans le reste du monde par plusieurs contributions. On se demande, is the West still the best? Interrogation d'angoisse existentielle qui survient après plusieurs siècles d'arrogante confiance en soi, en sa propre supériorité. Edmund Phillips, prix Nobel d'économie et spécialiste des questions de croissance économique, a récemment publié un papier intitulé « L'innovation en Chine va-t-elle dépasser celle de l'Occident ?» Phelps relève plusieurs tournants récemment pris par la direction politique de l'économie en Chine. Au Forum économique de Davos, en janvier dernier, la délégation chinoise a notamment expliqué à ses interlocuteurs occidentaux les raisons qui avaient poussé les Chinois à introduire davantage de concurrence dans leur économie. Après avoir longtemps protégé plusieurs grands groupes, il est aujourd'hui question de favoriser la création de nouveaux entrants afin de pousser à l'innovation. Les délais nécessaires à la création d'une société en Chine ont été raccourcis. L'entrée d'experts étrangers concourant à des projets technologiques a été libéralisée. Des mécanismes avertissant le risque d'excès de capacité des firmes ont été mis en place afin de limiter l'offre avant qu'elle ne devienne excessive. Bref, de nombreuses réformes ont été introduites afin de rationaliser et de dynamiser l'économie. Les Chinois, conclut Phelps, sont en train de comprendre qu'un pays prospère lorsque les sociétés sont libres de concourir entre elles. Or, poursuit-il, cette leçon a parfois été oubliée en Occident. Dans les années 30, les gouvernements avaient entrepris de protéger leurs firmes contre la concurrence, même lorsque de nouvelles sociétés apportaient des innovations et des adaptations nouvelles, ce qui avait enrayé la productivité totale des facteurs. Avant de se lancer dans une guerre commerciale avec la Chine, Donald Trump ferait bien d'y réfléchir. Kenneth Rogoff relève de son côté que la phénoménale croissance chinoise a été largement basée sur une économie de rattrapage, des montagnes d'investissement et, il faut bien le dire, une masse de travailleurs mobilisables. Mais que l'adoption et la reproduction d'innovations copiées de l'Occident y a aussi joué un grand rôle. Dans certains cas, il y a eu en effet appropriation illégale de la propriété intellectuelle. Trump n'est donc pas le premier président américain à s'en plaindre. Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, cette gigantesque main-d'œuvre a cessé d'être un atout. Elle peut même constituer un handicap.
Sauf que le modèle chinois est fondé sur un pilotage de la croissance par un système de décision très centralisé et il pourrait peut-être prochainement montrer ses limites.
Eh oui, mais le modèle américain lui-même, plus souple, en théorie c'est vrai, va aussi devoir traiter les siennes, prévient Rogoff. Résoudre en particulier la question comment concilier dynamisme technologique, qui exige de conserver les plus innovants en les rétribuant pour qu'ils n'aillent pas se vendre ailleurs, tout en empêchant la concentration excessive de l'argent et du pouvoir entre trop peu de mains. Ricardo Osman, un ancien ministre vénézuélien exilé aux États-Unis où il dirige le Centre du développement industriel de Harvard, propose de prendre, lui, le problème à l'envers. Plutôt que de se demander comment gérer l'innovation technique, il faut poser la question « que demandent les technologies ?» De quoi les innovations ont-elles besoin pour produire leurs meilleurs effets ? La technologie, poursuit-il, mobilise trois formes de savoir. Des compétences qui ont pris la forme d'outils particuliers, des compétences codifiées sous forme de protocoles et des compétences tacites qui sont dans les cerveaux des humains. Alors on peut accroître sans cesse les deux premières, mais les limites du cerveau humain font qu'on ne saurait miser sur une augmentation de la troisième. Ce qu'on peut améliorer, par contre, c'est l'organisation de l'effort intellectuel. Or, le développement technologique repose sur la modularisation. Des équipes différentes, compétentes pour une étape spécifique du processus, doivent être mises en ligne pour obtenir le meilleur résultat. Ce que peu de gens savent faire, du reste, c'est la qualité de sa connexion avec les autres modules de la chaîne de valeur répartie à travers le monde qui permet de multiplier les innovations. Et Ricardo Osman prend l'exemple des véhicules électriques dans lesquels le chinois BAIC a pris une avance considérable. Son développement dépend des capacités de stockage de l'électricité dont le japonais Panasonic est aujourd'hui le grand spécialiste. Or, la fabrication de ces batteries nécessite de grandes quantités de lithium dont le Chili est le principal producteur mondial. Alors, toute innovation dans la technique d'extraction du lithium bénéficie à la fabrication des batteries, tout comme chaque amélioration dans la conception de ces batteries améliore les performances des véhicules électriques. La chaîne de valeur est mondialisée, que cela plaise à Donald Trump ou non, mais en cherchant à protéger ses industries, en fermant les frontières commerciales des États-Unis, le président américain commettrait une grave erreur, prévient l'ancien ministre vénézuélien, celui d'enrayer le progrès technique des États-Unis.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve l'année prochaine, hein, Brice.
Merci beaucoup.
Rendez-vous le 27 août. Bel été à vous. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.